Fantôme japonais de Lacfadio Hearn, troisième nouvelle, enregistrée par Christiane Jehan, histoire de Kwashin Koji. Pendant la période de Tensho, vivait, dans un quartier au nord de Kyoto, un vieillard appelé Kwashin Koji. Il portait une longue barbe blanche et était toujours vêtu comme un prêtre shinto. Cependant, il gagnait sa vie en exhibant des tableaux bouddhiques et en prêchant la doctrine bouddhiste. Par chaque belle journée, il se rendait au parc du temple Jien. Il suspendait à un arbre quelconque un grand kakemono où étaient représentées les punitions des différents enfers. Ce kakemono était peint d'une façon si merveilleuse que toutes les choses qui y étaient représentées paraissaient réelles. Et le vieillard discourait au peuple qui s'assemblait pour le voir, il leur expliquait la loi des causes et des effets et désignait avec son bourdon bouddhiste, Nyohai, qui ne le quittait jamais, tous les détails des différents tourments, tout en exhortant les personnes présentes à suivre les doctrines de Bouddha. De grandes foules s'assemblaient pour contempler le tableau et écouter le vieillard, et parfois la natte qu'il étendait à ses pieds pour recevoir les offrandes disparaissait sous l'amoncellement des piécettes qu'on lui jetait. À cette époque, Obu Nobunaga régnait sur Kyoto et sur les provinces avoisinantes. Il advint qu'un de ses vassaux appelé Arakawa aperçut, au cours d'une visite qu'il fit au temple, le tableau qui y était exposé. Il en parla ensuite au palais. Nobunaga fut intéressé par la description d'Arakawa et il manda Kwashin Koji d'avoir à se présenter immédiatement au palais et d'y apporter le tableau. Lorsque Nobunaga vit le kakemono, il ne put dissimuler la surprise que lui causait le réalisme de cette œuvre. Les démons et les âmes tourmentées semblaient bouger devant ses yeux. Il crut entendre des voix qui l'imploraient. Le sang qui était représenté semblait couler si véritablement qu'il ne put s'empêcher d'étendre un doigt pour voir si le tableau en était, en effet, mouillé ou non. Mais son doigt ne fut point taché, car le papier était parfaitement sec. De plus en plus surpris, Nobunaga s'enquit de l'auteur de ce tableau surprenant. Kwashin Koji lui répondit que le kakemono avait été peint par le célèbre Ozuri Sōtan, après qu'il eut accompli le rite de purification pendant 100 jours consécutifs et pratiqué de grandes austérités, et adressé pour son inspiration de fervente prière à la divine Kwannon du temple de Kiyomizu. En observant le désir évident qu'éprouvait Nobunaga de posséder ce kakemono, Arakawa demanda à Kwashin Koji s'il ne l'offrirait pas en don au grand seigneur, mais le vieillard répondit hardiment « Ce tableau est le seul objet de valeur que je possède, et je puis en tirer quelque argent en le montrant au peuple. Si je l'offrais au seigneur, je me priverais de mon unique moyen d'existence. » Cependant, si le Seigneur est très désireux de le posséder, il n'a qu'à me payer la somme de 100 ryos d'or. Avec cet argent, je pourrais entreprendre quelque affaire lucrative. Autrement, je me verrais forcé de refuser de me séparer du tableau. Nobunaga parut mécontent de cette réponse. Il demeura silencieux. Bientôt, Arakawa murmura quelques paroles à l'oreille du Seigneur, qui hocha la tête affirmativement. Et Kwashin Koji fut alors congédié après avoir reçu un petit cadeau d'argent. Mais lorsque le vieillard quitta le palais, Arakawa le suivit à la dérobée, espérant avoir l'occasion de s'emparer du tableau par des moyens malhonnêtes. Et l'occasion se présenta bientôt. Kwashin Koji s'engagea sur une route qui menait directement aux hauteurs au-delà de la ville. Lorsqu'il parvint à un endroit solitaire où la route faisait un brusque tournant, il fut saisi par Arakawa qui lui dit « Pourquoi étiez-vous aussi stupide pour demander 100 ryos d'or pour le tableau ? Au lieu de 100 ryos d'or, je m'en vais vous donner un morceau de fer de 3 pieds de long. » Et tirant son sabre, il tua le vieillard et s'empara du tableau. Le lendemain, Arakawa présenta le tableau, toujours entouré de l'enveloppe dont Kwashin Koji avait eu soin de l'emballer avant de quitter le palais, à Obu Nobunaga qui ordonna de l'accrocher sans plus tarder. Mais lorsqu'on l'eut déroulé, Nobunaga et son vassal furent tous deux stupéfaits de constater que le tableau s'était effacé. La surface du kakemono était absolument vide. Arakawa ne put expliquer comment la peinture originale avait disparu et comme il était coupable volontairement ou non d'avoir trompé son maître, on décida qu'il serait puni. Il fut donc condamné à être emprisonné pendant un temps considérable. À peine Arakawa eut-il achevé sa peine qu'il apprit que Kwashin Koji exhibait le célèbre tableau dans le parc du temple Kitano. Arakawa n'en crut pas ses oreilles, mais cette rumeur lui donna le vague espoir de pouvoir s'emparer d'une façon ou d'une autre du kakemono et de racheter ainsi sa récente faute. Il réunit donc quelques suivants en toute hâte et se rendit au temple. Mais lorsqu'il y parvint, on lui annonça que Kwashin Koji était déjà reparti. Quelques jours plus tard, Arakawa apprit par ouï dire que Kwashin Koji exhibait le tableau au temple de Kiyomitsu, où il prêchait devant une assemblée considérable. Arakawa se rendit en toute diligence à Kiyomitsu, mais il n'y arriva que juste à temps pour voir la foule se disperser. Kwashin Koji avait de nouveau disparu. Enfin, un jour, à l'improviste, Arakawa aperçut Kwashin Koji chez un marchand de vin, et là il l'arrêta. Mais, se voyant pris, le vieillard se mit à rire avec bonhomie et dit « Je vais vous suivre, mais attendez, je vous prie, que j'ai bu encore un peu. » Arakawa ne fit pas d'objection à cette demande, et au grand ahurissement de tous les spectateurs, Kwashin Koji but 12 bols de vin à la suite. Après avoir avalé le contenu du dernier bol, il se déclara satisfait, et Arakawa ordonna qu'on le ligotât avec une corde et qu'on le menât chez Nobunaga. Kwashin Koji fut interrogé sans tarder dans la cour du palais par l'officier en chef qui le réprimanda sévèrement. Enfin, l'officier lui dit « Il est évident que vous avez berné les gens grâce à des pratiques magiques et vous méritez d'être sévèrement puni pour cette offense. » Cependant, si vous consentez à offrir respectueusement le tableau au seigneur Nobunaga, nous vous pardonnerons. Sinon, nous vous infligerons certainement une punition extrêmement sévère. » À cette menace, Kwashin Koji se mit à rire d'une façon ahurie et il s'écria « Ce n'est pas moi qui suis coupable d'avoir déçu le monde !» Puis, se tournant vers Arakawa, il dit « C'est vous le coupable. Vous avez voulu flatter le seigneur en lui donnant ce tableau. » Et vous avez essayé de me tuer pour vous le procurer. Assurément, si crime il y a, s'en fut un que celui-là. La chance voulut que vous n'avez pas réussi à me tuer. Mais si vous y étiez parvenu, comme vous l'espériez, qu'auriez-vous pu plaider pour excuser un acte pareil? En tout cas, vous avez volé le tableau. Celui que j'ai n'en est qu'une copie. Et après l'avoir volé, vous avez changé d'avis. Et au lieu de le donner au seigneur Nobunaga, vous avez médité un plan pour le conserver vous-même. Alors vous avez donné un kakemono blanc au seigneur Nobunaga, et afin de dissimuler votre acte et votre but secret, vous avez prétendu que je vous avais trompé en substituant un kakemono blanc au véritable tableau. Je ne sais où se trouve le véritable tableau, mais vous, vous le savez sans doute. » À ces mots, Arakawa entra en une telle colère qu'il bondit vers le prisonnier et l'eût frappé si les gardes n'étaient intervenus. Et devant cette soudaine explosion de fureur, l'officier soupçonna qu'Arakawa n'était pas entièrement innocent. Il ordonna que Kwashin Koji fût conduit en prison pour le moment. Il se mit à interroger Arakawa d'une façon très serrée. Or, Arakawa parlait habituellement avec une lenteur extrême. Mais en cette occasion, étant très agité, il put à peine articuler ces mots. Il bredouilla, se contredit et trahit tous les signes d'une conscience coupable. À bout de patience, l'officier en chef ordonna qu'Arakawa fût battu pour le décider à dire la vérité. Mais il lui fut impossible de paraître même dire la vérité. Alors il fut fustigé avec un bambou jusqu'à ce que ses esprits l'abandonnèrent et il demeura comme mort. Kwashin Koji apprit en prison le sort d'Arakawa. Il se mit à rire. Mais un moment plus tard, il dit à son geôlier « Écoutez, Arakawa s'est vraiment conduit comme une canaille, et j'ai volontairement attiré cette punition sur lui afin de corriger ses mauvais penchants. Mais je vous prie de dire à l'officier en chef qu'Arakawa a dû ignorer la vérité et que j'expliquerai toute l'affaire d'une manière satisfaisante. » Alors, Kwashin Koji comparut de nouveau devant l'officier en chef à qui il fit la déclaration suivante. Dans tout tableau d'une vraie valeur, il faut qu'il y ait un fantôme. Un pareil tableau, ayant une volonté personnelle, peut refuser d'être séparé de la personne qui lui donna la vie, ou même de son possesseur légitime. Il existe de nombreuses histoires qui tendent à prouver que les tableaux ont vraiment des âmes. On sait que certains moineaux peints sur un fusuma, écran à glissière, par Ogen Yenshin, prirent un jour leur vol, laissant vides les espaces qu'ils avaient occupés sur l'écran. Et personne n'ignore que le cheval peint sur certains kakémonos sortait la nuit pour brouter de l'herbe. Or, dans le cas présent, je présume que, puisque le seigneur Nobunaga ne devint jamais le possesseur légitime de mon kakémono, le tableau disparut volontairement du papier lorsqu'on le déroula en sa présence. Mais si vous voulez me payer le prix que je vous ai demandé tout d'abord, je crois que la peinture reparaîtra de nouveau de son propre gré sur le papier blanc. En tout cas, essayons. Vous ne risquez rien, puisque je vous rendrai immédiatement l'argent si le tableau n'apparaît pas. » En entendant ces étranges assertions, Nobunaga donna l'ordre de payer les 100 ryos. Il vint en personne constater le résultat. Le kakémono fut déroulé devant lui, et, à l'étonnement de tout ce présent, le kakémono reparut avec tous ses détails. Mais les couleurs semblaient être un peu fanées, et les âmes et les démons ne paraissaient plus aussi vraiment vivants qu'auparavant. Intrigué par cette différence, le seigneur Nobunaga demanda à Kwashin Koji d'en expliquer la cause, et Kwashin Koji répondit « La valeur de la peinture, comme vous l'avez vu d'abord, était celle d'un tableau hors prix. Mais sa valeur, telle que vous la voyez aujourd'hui, représente exactement ce que vous l'avez payé, 100 ryos d'or. Comment pourrait-il en être autrement ?» En entendant cette réponse, tout le monde se rendit compte combien il serait inutile de tourmenter le vieillard plus longtemps. Il fut immédiatement remis en liberté. Arakawa fut également relâché, car il avait plus qu'expié sa faute par la punition qu'il avait subie. Or, Arakawa avait un frère cadet nommé Buishi, qui était également au service de Nobunaga. Buishi était furieux du traitement infligé à son frère, et il résolut de tuer Kwashin Koji. Dès que ce dernier fut libéré, il se rendit chez un marchand de vin et demanda à boire. Buishi courut derrière lui, l'abattit et lui trancha la tête. Puis, s'emparant des 100 ryos qui venaient d'être remis au vieillard, Buishi enveloppa la tête et l'or dans une serviette et se hâta de rentrer pour les montrer à Arakawa. Mais lorsqu'il défit la serviette, il ne trouva au lieu de la tête qu'une gourde vide et un morceau de boue à la place de l'or. Et l'ahurissement des deux frères s'accrut encore davantage lorsqu'on apprit que le corps décapité avait disparu de l'estaminet, on ne savait quand ni comment. On n'entendit plus parler de Kwashin Koji durant tout un mois, lorsqu'un soir, on trouva un ivrogne endormi à la porte du palais du seigneur Nobunaga et ronflant si fort que chaque ronflement ressemblait au grondement lointain du tonnerre. Un des suivants découvrit que l'ivrogne n'était autre que le vieillard qui fut, pour cette offense insolente, immédiatement arrêté et jeté en prison. Mais il ne se réveilla point, il continua de dormir sans interruption pendant 10 jours et 10 nuits, tout en ronflant si fort qu'on l'entendit à une très grande distance. Vers cette époque, le seigneur Nobunaga trouva la mort grâce à la traîtrise d'un de ses capitaines, Akoshi Mitsushide, qui usurpa le pouvoir mais ne le conserva qu'une 12 jours. Lorsque Mitsushide devint maître de Kyoto, on lui raconta l'histoire de Kwashin Koji et il ordonna qu'on lui amenât le vieillard. Le prisonnier fut donc sommé de paraître devant le nouveau seigneur, mais Mitsushide lui parla avec bienveillance, le traita en hôte vénéré et commanda qu'on lui servît un bon dîner. Lorsque le vieillard eut bien mangé, Mitsushide lui dit « J'ai ouï dire que vous aimiez beaucoup le vin. Combien de vin pouvez-vous boire en une seule séance ?» Kwashin Koji répondit « Je n'en sais vraiment rien, car je ne m'arrête de boire que lorsque je sens l'ivresse me gagner. » Alors le seigneur fit poser une grande coupe de vin devant Kwashin Koji, et un domestique reçut l'ordre de la remplir aussi souvent que le vieillard en exprimerait le désir. Kwashin Koji vida la grande coupe 12 fois de suite, et il demanda encore à boire. Alors le domestique lui répondit que le contenu du baril était épuisé. Toutes les personnes présentes furent stupéfaites par cet exploit, et le seigneur demanda à Kwashin Koji « N'êtes-vous pas satisfait, monsieur ?»« Eh bien oui, » répondit-il, « je suis assez satisfait, et pour récompenser votre auguste bonté, je vais vous montrer un peu mon art. Soyez assez aimable pour regarder cet écran. » Il désigna un grand écran à 8 feuilles, sur lesquels étaient peints les 8 beaux paysages du lac Omi, le Omi Kakei, et tout le monde regarda l'écran. Dans un des panneaux, l'artiste avait représenté dans le lointain un homme ramant dans une barque. La barque occupait sur l'écran à peu près un pouce de surface. Kwashin Koji agita la main dans la direction de l'écran et tous purent voir la barque virer soudain et se mettre à glisser vers le premier plan du tableau. Elle grandissait très rapidement et bientôt les traits du rameur furent distincts. Et la barque approcha davantage, devenant toujours plus grande. Elle parut enfin être fort peu éloignée, et tout à coup, l'eau du lac déborda du tableau dans la salle, qui en fut inondée. Et les spectateurs durent retrousser leurs robes, car l'eau leur montait jusqu'aux genoux. Au même instant, la barque sortit de l'écran. C'était une véritable barque de pêche, et l'on entendait distinctement le grincement de la rame solitaire. L'inondation continuait à monter et les spectateurs furent bientôt dans l'eau jusqu'à la taille. Alors la barque s'approcha près de Kwashin Koji qui y grimpa, puis le batelier la fit tourner et se mit à ramer très rapidement. Et à mesure que la barque s'éloignait, l'eau baissait et refluait vers l'écran. Et la barque n'eut pas plus tôt dépassé l'avant-plan du tableau que la salle était de nouveau sèche. Mais la barque peinte continuait toujours à glisser sur la surface de l'eau, s'éloignant toujours davantage et devenant au fur et à mesure plus petite. Bientôt, elle ne fut plus qu'un point à l'horizon. Puis, tout à coup, elle disparut complètement, emportant Kwashin Koji. Et on ne le revit jamais plus au Japon. Fin de l'histoire.